rire des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Malika Lafer, réalisée par Saïd Boutelfa.
Guelma fut longtemps lieu de marché important et un nœud de communication à mi-distance entre Annaba et Constantine, entre Skikda et Tebessa, avec la création d'une usine de céramique, le Kaolin de Jbel Dabar, d'une fabrique de cycles et motocycles, d'une sucrerie et d'autres industries. La ville a connu un regain d'activité important. Guelma, l'antique Guelma qui existait avant l'occupation roumaine, on voit dans la ville le théâtre romain, bien reconstitué, le musée où l'on trouve quelques statues, en bronze, monnaie, mosaïque, et un jardin archéologique. Les grottes de Taïa, à 25 km de l'ouest de Hammam Mesrotin, sur le flanc du Jbel Taïa, sont percées plusieurs grottes, dont la plus importante atteint la profondeur de 400 mètres. Jadis, elles furent occupées par des ours, puis on y vénéra une divinité locale du nom de Baqa, qui porte ce nom jusqu'à ce jour. De tout temps, les hommes ont eu recours aux bienfaits des eaux thermales, d'une façon sans doute un peu archaïque, parce que dépourvus de bases scientifiques, il s'avère que dans l'histoire, les Romains furent parmi les premiers à nous donner la preuve historique de leur vertu. Et aujourd'hui encore, les établissements de bains traditionnels sont toujours actifs à Guelma. Quant à l'industrie du tourisme, comment se porte-t-il? C'est ce que nous avons demandé à M. Yahya Abnour, directeur du tourisme dans la wilaya de Guelma. Avec M. Yahi Abdennour, qui est directeur du tourisme dans la wilaya de Guelma. Merci donc de nous recevoir, M. Yahi. La première question qui s'impose, Guelma donc a sa réputation par rapport à ses terres. Vous allez nous dire combien vous en avez et quelles sont les vertus thérapeutiques qui font justement la beauté de la ville.
D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Effectivement, la ville de Guelma, ou la wilaya de Guelma, est reconnue pour ses terres. À plusieurs vertus thérapeutiques, à savoir les affections rhumatismales, affections neurologiques, l'affection de la peau, affection du domaine de l'otorino, laryngologie, affections respiratoires et autres. Bien sûr, il y a une nouvelle vue pour l'exploitation de ces effets thérapeutiques. C'est les effets thérapeutiques destinés à la femme, justement pour la peau, etc., etc. Donc c'est en vue, surtout dans le hammam de Shilala.
Monsieur Yahi, justement, toutes ces vertus thérapeutiques, ce qu'il manque, l'essentiel, c'est les structures d'accueil. Combien avez-vous, environ dans l'année, de, de visiteurs?
Les effets thérapeutiques des hammams, c'est surtout pendant le printemps et l'été, et plutôt l'hiver. Les visiteurs avoisinant les 10 000 à 15 000 visiteurs pendant les week-ends, surtout les week-ends pendant le mois de mars et le mois d'avril. Les gens viennent de partout, viennent de l'Est, de l'Ouest, vu la réputation de la région de Guelma en matière de hammam.
Alors justement, Guelma, elle est entre les deux traditions touristiques peut-être, mais pas de réputation, parce qu'elle est entre la Annaba, qui est la ville où il y a la mer, et peut-être Constantine aussi. Aujourd'hui, il y a un tourisme à développer. Ce tourisme, bon, il est traditionnel, mais il n'est pas scientifique. Le tourisme vert, il y a d'autres tourismes à développer.
Dernièrement, il y a eu les assises du tourisme à Annaba, justement pour former ce pôle de tourisme. Maintenant, on parle de pôle de tourisme, pôle d'excellence à Annaba, mais il y a d'autres formes de tourisme qui gravitent autour de ce pôle, à savoir le tourisme vert, le thermalisme, le tourisme culturel, et ça à travers la réalisation d'une carte touristique propre à la zone est de l'Algérie. Et à travers ce pôle, on va développer d'autres formes de tourisme, le tourisme de randonnée, le tourisme de chasse, le tourisme qui est complémentaire à celui du tourisme balnéaire à Annaba.
Il y a aussi un tourisme, je ne dirais pas à la mode, mais tourisme rural où les citoyens participeraient. Est-ce que ça fait partie de vos projets?
Oui, absolument, parce que vous avez peut-être entendu parler de les programmes PDR, là où on fait associer les gens habitant les zones rurales au tourisme, bien sûr, à travers la vente du produit artisanaux, à travers l'accueil des touristes chez eux. C'est en quelque sorte les faire vivre la vie rurale.
En tant que directeur de tourisme, M. Yahya Abdonno, comment dire aux gens de la ville que le tourisme fait partie de l'économie et que c'est important et qu'il faut absolument faire attention, quoi, veiller à ce que l'environnement soit entretenu?
Sachant bien que sur 12 postes d'emploi créés à l'échelle mondiale, un poste revient au tourisme, que ce soit dans l'hôtellerie ou indirectement dans le transport, etc. etc. Donc, sachant bien que ce secteur du tourisme, il produit de l'emploi, il est bien entendu conséquent de préserver le tourisme à travers la préservation des sites touristiques. Et ça, c'est avoir une culture touristique, sachant bien que les bienfaits du tourisme reviennent sur l'économie nationale.
D'autres structures d'accueil en projet?
Oui, on a actuellement 5 grands projets touristiques en voie de réalisation qui verront le jour incessamment dans quelques mois. C'est-à-dire il y a 2 hammams en réalisation, il y a 2 grands hôtels en réalisation, surtout dans les zones touristiques. Et on compte bien sûr ouvrir une autre zone d'expansion touristique, c'est une zone réservée pour ce genre d'investissement. Ceci sera sera spécialement destiné au tourisme vert, autour de Guelma à Maouna. C'est une forêt d'une altitude de 1411 mètres. Là, on pourra développer plusieurs formes de tourisme, tourisme de chasse, de randonnée, etc. Alors, monsieur Yahé, vous êtes le directeur donc du tourisme ici à la wilaya de Guelma. Vous allez, si vous voulez bien, faire un peu notre guide. Quels sont les endroits, les sites qu'il ne faut pas rater lorsqu'on vient à Guelma? Si on vient à Guelma, il ne faut surtout pas rater quelques points dont je vais vous citer. Donc la ville de Tbilis, l'antique ville de Tbilis à Sella Wa'announa, entre Constantine et Galma, c'est une ville humide de premier degré. Le dolmen de Rokhnia, c'est pratiquement 3000 dolmens sur 2 km carrés, prouvant l'existence de l'homme préhistorique à Galma. Aussi, on a la piscine romaine à Hammam Brada, à 7 km de Galma. Il ne faut pas rater aussi de visiter le jardin archéologique de Kalama, le théâtre romain de Kalama, classé en 1900 et qui contient 4500 places. Puis il ne faut pas oublier de visiter le village de Hammam Oulad Ali, c'est un village purement thermal. La zone de Ain Safra à Maouna, sur 1411 mètres d'altitude. À Hammam Dabagh, il y a des traces de la période romaine. Donc ça prouve que la ville de Galma, Kalama, ex-Kalama, c'est une ville romaine. Donc on a la réserve naturelle de Bnessala, c'est une réserve à l'extrême est de la wilaya qui est riche en faune et en flore, qu'il faut vraiment visiter. Sans oublier la grotte de Ghaljmaa, c'est une grotte découverte en 1867. C'est une grotte de 1200 mètres de profondeur. Et à travers les écriteaux qui se trouvent dedans, ça prouve que ça revient au 3e siècle avant Jésus-Christ.
La Mlaya est culturellement née dans l'est de l'Algérie. Sa discrète éclipse s'est faite progressivement pour aujourd'hui complètement disparaître. C'est un habit de sortie, lié à un événement historique, précis et fixé par les usages, pareillement au Haïk, au Sifsari et à la Malhfa. En signe de deuil ostentatoire, les femmes de l'est décidèrent par choix en 1792 de porter habit de sortie, fait d'une toile noire sans couture, de leur côté par provocation et bravade, sur l'ordre du Dey d'Alger d'alors, les hommes composèrent et chantèrent. Ils ont dit les Arabes, nous ne donnerons ni salaire ni sa fortune, nous le combattrons au point non plus, disent les têtes tombées sur les têtes. Monsieur Chedli Djamel, ingénieur agronome de formation, artiste plasticien, il sculpte sa ville dans le bois et dans la roche. L'olivier originaire de Judée, qui fournissait en huile les lampes d'Italie, et le blé alimentait les greniers de Rome. Des histoires nichées au creux de sa mémoire, il a bien voulu nous en raconter quelques-unes. Avec M. Chedli Djamel, sculpteur, plasticien, musicien, ingénieur agronome, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous portez aujourd'hui plusieurs casquettes. La question toujours banale qu'on pose, qu'est-ce qui vous a mené de la sculpture à l'agronomie ?
Oui, je vous remercie d'abord de nous avoir invités. Bienvenue chez nous à Galma. J'espère que vous allez passer un bon séjour chez nous. À Galma, marhaba bikem. Moi, Jamel Chedli, fils de Galma. La Providence a voulu, je ne sais pas, même la date qui a. La date, je ne me rappelle plus de la date où j'ai commencé à peindre ou à sculpter. C'était un truc, je dirais modestement, peut-être inné, par rapport à une famille qui croyait en la musique, qui croyait aux arts. un père maçon, mais qui était artiste. Et il jouait de la flûte, il jouait un peu de la guitare, il était même sculpteur de pierre. J'avais une maman, la Berhama, qui appréciait la musique, et tous mes frères et sœurs jouaient des instruments de musique. Donc c'était déjà un cadre familial propice. Peut-être c'est ça qui m'a poussé à me pencher vers cet art. J'ai mon père qui faisait de la sculpture sur pierre, enfin la pierre taillée. Peut-être tout enfant, je lui ramenais le panier au moment du déjeuner. Le casse-croûte, le déjeuner, peut-être en le voyant travailler, peut-être c'était le déclic, peut-être en le voyant faire de la charpente, il utilisait beaucoup la scie, le ciseau et tout ça pour faire la charpente, il était aussi charpentier parce qu'avant pour être un maçon qualifié on devait faire tout, peut-être c'était ça des images d'enfance qui m'ont peut-être aidé à opter vers la sculpture plus que la peinture. J'ai fait de la peinture, j'ai fait des dessins, mais beaucoup plus maintenant la sculpture. Peut-être c'est ça.
Alors justement, votre père, il a été inconsciemment votre maître, puisqu'il a été maçon, et le maçon d'antan, déjà il fallait être artiste. Et vous, quel est votre support ?
Voilà, le choix du support, une fois, il m'a fait une correction. Mais j'étais tout enfant, je ne me rappelle même pas l'âge que j'avais. C'était dans un chantier, il y avait une pierre, c'était un galet d'oued, un galet de rivière, mais était aussi gros que, enfin, c'était gros comme galet. J'ai pris un marteau quelconque avec un burin, je commençais à faire un motif quelconque comme ça. Il m'a vu, il m'a bien observé, il s'est approché de moi, il m'a dit « Mon fils, c'est pas sur un galet qu'on fait une œuvre d'art, il y a la pierre noble, il faut choisir la pierre, il y a le marbre, etc. » Et c'est là où j'ai fait la différence. Il y a la banalité, il y a le quelconque, il y a la noblesse. Bon, ça c'est pour le choix de la pierre. Pour le bois, c'était plutôt le scoutisme. J'ai eu la chance d'être scout, enfant, bas âge, les années 60, et nous avions eu la chance de connaître Maoui Abdelkader, on l'appelait tous Amir Kaddour, tout également le connaît, la Yerhamou. Notre chef nous a appris, nous a inculqué à aimer la nature, comme le stipule la loi scout d'ailleurs. En aimant la nature, bon, peut-être j'étais un peu particulier, j'ai insisté, c'était quoi la nature, etc. Il nous a fait connaître le bois. Et même pour faire un feu de camp, il nous disait il faut pas brûler n'importe quel bois. Il faut choisir le bois mort, le bois cassé, etc. Parce qu'il y a un bois qui peut-être peut servir comme manche, il faut pas le détruire. Déjà, je commençais à faire la différence entre un bois quelconque et un bois qui peut servir. Par rapport à la sculpture, le bois, il nous disait qu'on pouvait faire avec des manches, des trucs comme ça. Donc le bois pouvait servir à quelque chose. Il nous a appris à aimer la nature. Aimer la nature, le scout, dans la loi scout, le scout aime la nature et voit dans la nature la puissance de Dieu. Là, j'ai commencé à aimer la nature. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire où je commençais à voltiger, à rêver, c'est quoi la nature, c'est quoi la puissance de Dieu. Il nous a dit une fois, voyez, une petite graine, d'ailleurs elle était un millimètre comme ça de diamètre, une petite graine noire, je vais la mettre dans un pot avec un peu d'eau, vous allez voir qu'est-ce qu'elle va devenir. Mais c'est ça la puissance dans la nature. Bon, c'est un peu complexe. Après, quand elle a donné des fleurs, il nous a dit, regardez la petite graine qu'on a semée, etc. J'ai commencé à aimer la nature. Bon, c'était pas par hasard que j'ai choisi l'agronomie. J'ai commencé à aimer la nature. J'étais dans mon bain, j'étais dans mon milieu. J'ai choisi l'agronomie.
On va maintenant s'adresser au sculpteur, M. Chedli Djamel. Donc, vos supports, c'est le bois et la pierre. On va parler aujourd'hui, nos amis auditeurs, il faudrait qu'ils imaginent un petit peu vos travaux. Quelles sont vos sources d'inspiration et qu'est-ce que vous faites et dans vos expositions, comment le public perçoit vos travaux?
Bon, au départ, j'ai commencé à être un peu réaliste. Je vous raconte une petite anecdote. J'étais étudiant, j'habitais le 9e étage d'un immeuble. Il y avait à l'époque le plâtre de Paris, c'était une qualité d'un plâtre qui séchait lentement. À chaque fois, j'avais fait un buste d'une femme. Je travaillais un peu et je partais au cours. Mais dans la salle de classe, dans l'amphithéâtre, j'imaginais qu'est-ce que je devrais faire après. Alors, cette femme, j'ai commencé à la connaître. Et tellement à la connaître qu'elle commençait à me faire peur. Et à l'époque, j'entendais des trucs, que la sculpture, le visage humain, tout ça, c'était un peu péché, c'était haram et tout ça. Cette femme m'a fait, j'ai commencé à la connaître, croyez-moi. À chaque fois, je corrigeais ses lèvres, peut-être ses yeux, peut-être son nez. Je l'ai jeté à partir du 9e étage. C'est là où j'ai commencé à faire plutôt de l'impressionnisme. Plutôt de l'impressionnisme. Voilà, c'était à peu près le choix de ma sculpture. J'ai commencé à faire de l'impressionnisme.
Vous craignez de tomber amoureux ?
Non, c'était par rapport à la société, par rapport au message que je voulais donner. J'aime la beauté, j'aime beaucoup le beau, mais j'ai fait un choix par rapport à la société, par rapport à notre religion et tout. J'ai plutôt fait plutôt l'impressionnisme. Ça m'arrange et ça va plutôt avec ma pensée. La société aussi.
Donc, c'est un choix un peu... Il n'est pas naturel.
Forcé.
C'est un choix un peu forcé.
Non, il n'est pas forcé. Parce que moi, quand je fais quelque chose de vraiment réaliste, ça me demande beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion, et beaucoup de calcul, et je dois répondre à certaines normes de proportion et tout et tout. Dans l'impressionnisme, j'ai trouvé ma liberté. J'ai trouvé ma liberté, moi qui travaille dans l'improvisation. Je calcule pas trop le fait de faire ça, mon travail et tout. J'improvise beaucoup et je suis un peu de ceux qui disent que la matière crée l'idée. Je suis un peu de ces gens-là. J'ai eu affaire à des pierres où, croyez-moi, quand j'ai eu cette pierre devant moi, je n'avais aucune idée. Mais c'était la forme de cette pierre qui m'a orienté vers un thème. Ce n'était pas moi qui ai choisi le thème. C'était la pierre qui m'a donné le thème. C'est en travaillant, en faisant un peu le tour de cette pierre, en respectant un peu le rond de bosse, etc., les dimensions, que l'idée est venue. C'était pas calculé. Bon, cette pierre, je vais faire ça, ça, ça. Non, c'est la pierre qui m'a orienté. C'est le tronc d'arbre qui m'a orienté. C'est la matière qui m'a orienté. Et j'improvise beaucoup. Je suis spontané. Je ne suis pas calculateur. Et je crois qu'en improvisant, c'est mes sentiments qui m'orientent.
Est-ce que la sculpture a sa place ici dans la société, plus particulièrement à Guelma ? Et est-ce que vous, en tant que sculpteur, en tant qu'artiste, lorsque les gens viennent assister à vos expositions, est-ce que les gens sont satisfaits de vos œuvres ?
Les gens ont respecté mes œuvres, mais ils n'ont pas tellement compris mes œuvres. Ils les ont respectées. D'ailleurs, j'étais beaucoup plus compris à Constantine qu'à Guelma, plutôt à Annaba qu'à Guelma. Pourquoi ? C'est dommage. Quand on fait une exposition, c'est plutôt des jeunes qui viennent. C'est pas d'un certain âge. Je ne sais pas, il y a un petit divorce comme ça. Mais on a essayé de comprendre mes œuvres. J'ai essayé d'expliquer, mais c'était juste, ils ont compris, c'est tout. Mais c'était pas quelque chose de professionnel. C'était pas des questions de professionnel. C'était pas un goût. C'était des gens à la recherche, plutôt une curiosité. Je ne dirais pas que ce style dépassait ces mentalités-là, mais je dirais peut-être qu'il n'y avait pas un passif, il n'y avait pas un passé de sculpture à Guelma dans le genre comme ça, impressionniste, etc. C'était plutôt une curiosité qu'autre chose.
Et quelles sont les œuvres que vous avez réalisées ici dans la ville de Guelma ?
Mis à part les sculptures où je n'ai pas trouvé de place où les mettre, j'ai fait des fresques en céramique sur faïence. Et La majorité de ces fresques étaient faites en noir et blanc. Noir et blanc par rapport à Guelma. Guelma qui a, chez certaines familles, cultive encore le deuil du 8 mai 45. C'était des œuvres très grandes. C'était une première à Guelma. C'était sur faïence, où tous mes thèmes étaient des messages. Je n'ai pas fait des trucs sur commande. On a eu la chance, un passage d'un Wali qui a vraiment changé la Guelma. La ville de Guelma, il l'a modernisée. Je peux citer même son nom. C'est Chef Mziane. Voilà, qu'on salue bien. Rabbi Yusra, Rabbi Tawla Fi Amru, C'est un wali qui a changé l'image de Guelma. Il l'a modernisé en termes d'architecture, en termes d'embellissement et tout. J'ai participé dans ce cadre-là. J'ai fait des fresques où j'ai essayé de mettre des messages. Ce n'était pas des trucs à la commande. Au contraire, on m'a donné la liberté. Alors, pour vous citer, j'ai fait un grand cavalier sur la muraille d'un hôpital. C'était pour dire aux gens qui venaient à Guelma que Guelma a connu le cheval, a connu la cavalerie, que la région de Guelma célébrait ses mariages avec les chevaux, etc., qu'il y avait des traditions. J'ai fait une fresque où il y avait des femmes habillées en tenue traditionnelle avec des poteries, elles ramenaient de l'eau à partir d'une source. C'est pour dire aux gens qu'il y avait la poterie à Guelma, qu'il y avait la tenue traditionnelle, que les jeunes filles, quand elles allaient aux sources, il y avait toujours une vieille dame qui... Bon, tout ça, c'était des messages. Tous mes travaux, c'était des messages. J'ai fait même une grande fresque concernant le 20 août, sur l'endroit même où il y a eu le massacre du 20 août, où j'ai mis « Oublie mais souviens-toi » en dessous de la fresque. Donc toutes mes fresques n'ont pas été faites à partir d'une commande. Non, c'était moi. C'était un message pour la ville de Guelma et pour les gens qui venaient vers Guelma.
Alors, je vous rappelle que nous sommes à Guelma avec M. Chedli Djamel, le sculpteur, artiste plasticien, ingénieur, agronome. Alors, il y a les armoiries de la ville de Guelma qui sont composées d'un blason soutenu par deux gerbes de fleurs de blé d'or surmontées en couronne, muraille d'une forteresse byzantine. Le blason lui-même est de gueule à la façade de théâtre romain d'argent au chef d'or à deux rameaux d'olivier entrecroisés. Alors, vous, M. Chedli, en tant qu'artiste, cette armoirie représente, c'est la représentation de la ville.
Oui, exactement. Sauf pour moi, j'ai toujours fait une remarque qu'il manquait la vache, qu'il fallait représenter, je ne sais pas comment, une tête ou de profil, parce qu'il y a une spécificité pour la région de Guelma, mis à part le blé, l'olive, les vestiges romains ou tout ça, il y avait la vache de Guelma. C'était une vache que même les Français, dans le temps, ont voulu la croiser, ils ont voulu la ramener en France, mais c'était son milieu à Guelma. Elle était rustique, elle donnait pas beaucoup de lait, mais elle était d'une qualité bouchère extraordinaire. Voilà. Mais pour l'armoirie de Guelma, exactement, il y avait les rameaux d'olivier, signe absolu de la région de Guelma. Pour vous dire qu'il y a à Guelma des forêts d'oliastres. C'est dommage si, par exemple, il y a un plan spécial pour greffer ces oliastres, on serait peut-être les premiers producteurs dans l'Algérie ou peut-être dans le bassin méditerranéen. Il y a des forêts à Guelma d'oliastres, je précise, mis à part le maquis, il y a des forêts d'oliastres. C'est sauvage, issu d'un semis, d'une graine qui a poussé comme ça, mais si on le greffe, ça donnera des qualités meilleures pour l'olive, etc. Alors, il y a beaucoup de forêts également constituées d'oliastres. L'oliastre, c'est quoi? C'est un olivier issu d'un semis, c'est communément l'appelle un olivier sauvage. En arabe, naitul zabosh. Nous avons l'olivier, nous avons le blé avec beaucoup de variétés locales extraordinaires. Nous avons la Hedba, nous avons le BD17, nous avons le Wedzneti. C'est des variétés extraordinaires, sauf que c'est en voie de disparition. Je fais un appel pour qu'on revienne sur ces variétés, même si elles ne sont pas trop performantes en rendement, mais elles sont d'une qualité boulangère extraordinaire. Nous avons aussi les vestiges, ce qu'on fait au-dessus de l'armoirie, la muraille byzantine, etc. D'ailleurs, c'est une muraille qui a été reprise encore par les colons. Ils ont fait tout le tour de la ville avec des portes. Moi, je souhaiterais, d'ailleurs, je ferai un appel, je profite de cette occasion. J'ai proposé une fois à un certain APC et le maire était consentant. C'est dommage, il est mort, l'Ayrahmou, Rachid. Guelma avait 6 portes qui faisaient d'elle une cité. Il y avait Beb Annaba, Beb Sigda, Beb Qsantena, Beb Sougaras, Beb Soug. Je rectifie, c'était 5 portes. S'importe, voilà. J'ai proposé de faire, à chaque fois où il y a une porte comme ça, de la cité, je faisais une stèle, quelque chose qui symbolisait pour les générations montantes qu'il y avait une porte, etc., etc. La porte de Annaba pour les déportations, la porte de Skigda pour ramener le poisson, etc. Beb Soukaras parce qu'il y avait le blé, l'échange en olivier, etc. Je fais un appel, je voudrais bien faire ce truc-là à Guelma. Bon, c'était ça la muraille de Guelma. Ça symbolisait aussi la cité. La cité, elle était dans une muraille. avec ses portes qui fermaient, qui s'ouvraient le matin, et à l'intérieur il y avait les métiers, etc. Et les gens vivaient. Bon.
Si on parle de réputation, elle est entourée de deux villes qui, on a l'impression, lui ont pris un peu trop de place. C'est-à-dire, entre Constantine et Annaba, on a l'impression que Guelma n'arrive pas à trouver sa dimension, sa place. C'est à cause de quoi ?
Guelma, dans le temps, avait sa place. Elle est d'une position stratégique extraordinaire. Géographiquement, elle est située entre Constantine, à l'ouest, Skikda au nord-est, au nord-ouest, Annaba au nord, Soukaras au nord-est, Sedrata, Ain Baïda, elle est bien située. Dans le temps, elle faisait partie de. Elle était un point, un marché de bestiaux. D'ailleurs, dans le livre, dans Larousse, l'ancien, Guelma, grand marché de bestiaux, après le Harrach et le Khouroub. C'était un pôle d'attraction, de culture, de marché, etc. Mais les temps ont changé. D'ailleurs, le transmaghrébin passait par Guelma. Et quand il passait par Guelma, c'était toute une région qui vivait, qui était dynamique, etc. Avec la ligne de chemin de fer qui a connu ses problèmes, bon, maintenant pour aller en Tunisie, on doit aller à Annaba et prendre le train à Soukara. Bon, la disparition de la ligne de chemin de fer déjà a commencé à diminuer de l'importance. C'était un outil de communication extraordinaire dans le temps. Je dirais que la ligne de chemin de fer jouait un grand rôle pour la région d'Angelma. Et après la disparition de cette ligne, les choses ont commencé.
Peut-être ça peut s'expliquer le fait que juste après l'indépendance, n'ayant pas ni d'université ni d'usine, elle s'est vidée un peu de tous ses hommes.
Non, je dirais que Guelma a perdu ses meilleurs enfants après l'indépendance. C'est suite aux grandes villes où il y avait un déficit par rapport aux professeurs, par rapport à l'administration, c'est des gens qui ont trouvé de l'emploi ailleurs. Voilà, elle également, on dirait qu'elle s'est un peu vidée de ses enfants. Donc c'est un phénomène un peu normal, qui n'est pas un peu spécifique également, c'est tout.
Maintenant, M. Chadli, c'est l'ingénieur agronome. Alors le blé, on va récapituler, le blé et l'olivier, région agro-pastorale par excellence. Guelma et sa région est habitée depuis l'aube de l'humanité. Donc vous venez de dire que l'olivier, arbre originaire de Judée, fournissait en huile de lampe. Le blé alimentait les greniers de Rome et ses ressources agricoles, les thermales, faisaient sa fierté. Que reste-t-il aujourd'hui ?
Ben, la nature, elle est là. La nature, elle est là. Ces montagnes sont là. Ces collines, chaque colline cache une autre. Guelma est spécifique pour ces collines. Elle est spécifique avec la saignée que provoque le Wetsibus en la traversant. Elle est spécifique avec sa vallée très riche en arbres, avec ses agrumes, avec ses orangeries. Elle est très riche avec la Mauna qui découle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Avec ces montagnes qui l'entourent, avec ses points d'eau, elle est très riche en eau. La nature, elle est là. Sauf que il y a eu pendant des années, juste après l'indépendance, les jeunes de Guelma voulaient faire quelque chose. Il y avait une jalousie. Mais puis après, il y avait un peu un divorce. Un divorce, bon, provoqué par des circonstances. Je dirais qu'avant, il y avait moins d'infrastructures à Guelma, mais les choses étaient meilleures. Maintenant, Guelma dispose d'infrastructures qu'on n'avait pas la chance de connaître avant.
Elle est haute de 290 mètres d'altitude, c'est ça ?
300 mètres, comme ça. Oui. Sa spécificité, c'est qu'elle est au fond d'une cuvette, entourée de montagnes. Donc elle lui donne un microclimat extraordinaire, favorable à la culture des oranges, enfin tout ce qui est agrumes, à la vigne. Et tout autour de Guelma, on sort un peu de la basse altitude, on a la possibilité de faire des maraîchages, toutes variétés confondues. Et vers le sud, le blé, toutes variétés confondues, et avec des potentialités en eau extraordinaires qu'on ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs, Guelma, qui est située au fond d'une cuvette, je dirais qu'elle reçoit toutes les eaux de pluie vers le fond. parce qu'elle est au fond d'une cuvette. Tout ce qui se passe en haut de montagne, on le récupère au fond de la cuvette.
Alors on disait tout à l'heure que c'était le blé était le blé alimentait les greniers de Rome, donc il y avait plusieurs variétés de blé. Et aujourd'hui, que reste-t-il ?
Il ne reste plus rien. Nous avons des variétés importées. C'est des variétés performantes, mais en qualité boulangère presque nulle. C'est pour s'alimenter, mais ce n'est pas avec un goût. Mais j'ai une information. Ces derniers temps, il y a des variétés locales qui sont en train de revenir. Mais c'est des initiatives privées. C'est des gens qui, à partir d'une petite récolte, essaient de récupérer ça en semence et ils essaient encore de... Enfin, ils veulent revenir sur certaines variétés. Mais c'est des initiatives privées, chacun de son côté. Mais je dirais que c'est un bon signe.
Est-ce qu'il y a des histoires nourricières, des légendes que vous pouvez nous raconter, vous, en tant qu'artiste ?
Je peux vous raconter deux choses. Il y a la Mauna. La Mauna, en venant d'Annaba, en dépassant le col, quand on descend vers Guelma, elle est d'un profil extraordinaire. C'est une montagne qui a plusieurs couleurs qui répondent à la lumière du jour. On a l'impression de voir une femme couchée de profil, une femme avec son profil, mais vraiment d'une qualité extraordinaire, et c'était une femme enceinte. Et suivant les lumières du jour, on voyait même ses cheveux qui tombaient, parce que nous avons la forêt de Liège qui donnait cette impression. Ça, on dit que c'est une femme sauvage, bon, entre guillemets. Mais, Walia Salah, Lalla Mauna, ici également, il y a un Ardaha, comme ça. Et qui errait dans cette forêt. Il y avait une forêt extraordinaire, la Mauna, mais ça a été massacré. D'abord par les colons pour l'exportation de bois, etc., pour le chauffage et les incendies. Bon, Mauna, c'est un site extraordinaire. Il renferme beaucoup de richesses. D'ailleurs, il y a beaucoup de cavernes. Il y avait les troglodytes qui a habité là-bas, etc.
Justement, Monsieur Chadli Djamel, en tant que sculpteur, vous avez des matériaux de choix. Et en même temps, Guelma est grande productrice de marbre, puisque à l'époque romaine, beaucoup de statues ont été faites avec le marbre de Guelma. Il y a le marbre, il y a le kaolin. Il y a un arbre que vous préférez aussi, qui est le frêne et l'olivier.
Bon, l'olivier existe à Guelma, le frêne aussi. Le frêne et l'olivier, c'est des arbres nobles pour moi. C'est une matière extraordinaire pour le travail d'abord et pour la conservation. Ça se conserve longtemps. Beaucoup de mes travaux ont été faits sur le frêne et sur l'olivier.
Et à propos du marbre et du kaolin ?
Guelma dispose d'un marbre extraordinaire. On dit que les plus belles pièces faites à Rome sont faites à partir du marbre de Guelma. Wetsibus était navigable. Bon, dimension moyenne. Les Romains prenaient de Guelma le marbre blanc. Ils prenaient l'olivier, ils prenaient le raisin ou le vin et le blé. Mais maintenant, c'est dommage. Cette marbre n'est pas exploité, ce marbre-là. Il n'est pas exploité. Il est exploité, bon, pour une dimension un peu industrielle, mais il n'est pas exploité comme on peut espérer. Il y a une unité de transformation de marbre à Abou Mahra, mais elle peut faire mieux que ça. C'est d'une qualité extraordinaire, comme d'ailleurs le kaolin qui se trouve dans la montagne de Jbel Debeh, avec le témoignage des Chinois qui connaissent bien la matière. On dit avec cette argile, on peut faire le meilleur porcelain du monde. Et c'est dommage, c'est une matière qui est en dormance.
Pour conclure, la région a connu, entre parenthèses, beaucoup de civilisations. Aujourd'hui, elle est plutôt berbère, la région, que bédouine.
La région de Guelma, il y a eu un vide après la défaite des Romains du temps de Jugurtha. Il y a eu un vide alors, civilisationnel, comme vous voulez, jusqu'à la période coloniale. À la période coloniale, Guelma a été peuplée. Et ce peuplement, il se trouve qu'il est fait presque à 80% de petits kabyles. D'ailleurs, toutes les familles, vous pouvez trouver les mêmes noms qui est de la majorité des Guelma ici, dans la région de Jijel, d'Okol jusqu'à Béjaïa. Il y a des gens qui sont venus de l'Andalousie, qui ont accosté sur la région de Jijel, ils ont été encore pourchassés vers Guelma. Je peux citer les Beni Ourzdin. Les Beni Ourzdin, c'est une population de Guelma. À l'origine, c'est des Andalous.
Alors, en tant que sculpteur, est-ce que vous avez des projets ?
Dans l'immédiat, j'en ai pas. Mais il y a un projet qui me tient à cœur par rapport à la personne de Katib Yassine, rahmatullah alayhi. J'ai fait un engagement moral avec tous ses amis qu'au 30e anniversaire de ce grand monsieur, de ce monument, je vais faire bénévolement une stèle au lieu Pnikblout. C'est le lieu de sa tribu, de sa région, qu'il aimait beaucoup, qu'il venait souvent pour s'inspirer. Il est situé à quelques kilomètres de Guelma.
Donc vous allez, M. Chedli Djamel, vous immortaliser auprès de Katib Yassine. Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Issu de chants de confrérie soufie, ce chant de réjouissance et de mariage des frérettes, elles utilisent la jovialité et le talent de l'art féminin au Maghreb. Les frérettes chantent essentiellement pour leurs consoeurs lors des mariages et fêtes de réjouissance. Une partie importante de leur répertoire est destinée à l'univers religieux des saints patrons de la région et des alentours. Ceci nous renvoie notamment à l'origine de leur nom frérette, littéralement pauvre dans le sens d'une vie non matérielle et dépouillée. Qu'elles soient paysannes des montagnes ou des vallées, musiciennes, danseuses ou chanteuses professionnelles, comme les chirettes du Moyen Atlas, aux frérettes de Constantine, Guelma ou Annaba, la femme du Maghreb est attachée aux traditions d'un héritage oral transmis de génération en génération. La femme traditionnelle donne la vie en elle, l'intimité du rituel de l'existence à travers son sens de la fête. Karim, chanteur, il bouscule la tradition en usant de son stratagème, en s'intégrant dans ce monde féminin de frérat. Et c'est aussi pour perpétuer la tradition des frérat, car elle serait native de Guelma. Et peut-être, pour des raisons économiques, elle quitte Guelma pour d'autres villes plus industrialisées. ما تفتح باب غير ابوابك من نهار تنجي عضايا يا محمد حلينا حجابك كريم نايجا merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Vous êtes de profession infirmier et votre hobby c'est le chant. Plus particulièrement le chant du terroir. Alors ici, à Guelma, les frérettes sont célèbres à Annaba, mais on dit qu'à Guelma, c'est là qu'elles prendraient leurs racines.
On peut dire que les frérettes, c'est à Guelma depuis, je ne peux pas dire depuis l'Antiquité, mais je peux dire, suivant les histoires de ma mère, depuis les années 50, depuis les années 60. Mais, comme il a dit M. Chedli Kbila, il y avait beaucoup de circonstances. Nous allons pas les expliquer ou bien les déterminer normalement avec quelle façon, quelle partie Homarah ou le Frirette, l'Anneba, je sais pas c'est quoi. Mais, Pratfina Hadika, qui m'a dit, nous avons un rihant à le Frirette.
C'est toute une famille qui est représentée ici à Guelma, la famille Babès, qui chantait justement ce chant, qui ressemble à une forme de medayeh ou l'andalou. Qu'est-ce que c'est comme genre?
Genre de malouf traditionnel. Malouf traditionnel, mais les frirettes, je vais vous dire, ils n'ont pas beaucoup d'instruments pour dire. Ils ont uniquement des bnedr et des fa ou bendir. Et de chanter, les frirettes, d'ailleurs, ils ont 3, 6 et 9. Il y a toujours le triple, d'accord, normalement. Le chiffre est 3, 3 et 3 et 3. Et il y a le chef, c'est-à-dire celui qui prend le milieu. Celui qui prend le milieu. Et il y a les deux, ou bien 3. Zouz Bneder, ou Defa, etc.
Dans les frérettes, on sait qu'elles chantent dans des cérémonies de mariage, de baptême, de Mould Nabawi même. Et est-ce que donc elles accompagnent toutes les cérémonies?
Apparemment, ces derniers temps, je vois que le frirat a dû y avoir pour les surpattes, par exemple. Les surpattes. Lorsqu'on dit frirat, c'est la taïa, c'est-à-dire normalement, ars, tahour, etc., fiançailles, etc. Dorkanes, عاد يجيبوا الفقيرات حتى استاجير كونت يا ان تروك في لي زيكزاما كلكا كاي لو باك ولا لو بي ام اكسيتيرا الفرح اون برينسيپ ك هادي ما كانتش يجيبوا اينيكمون لو دي جي درك الناس عاد تقول لك نو انا باسكو تقدمت الدنيا تقول لك باغ اكزومبل عندي اي جورني نعملها بور لي فام الكبار ا بارتير دو 35 ans تكون الرايده كيما نقولوا حنا قاعده بالتركيح. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que il y a une adhésion par les jeunes? Est-ce que les jeunes aiment, enfin les jeunes, quand je parle des jeunes filles, les femmes?
Oui, oui, oui. Ou beaucoup plus. Anna, je le dis carrément, beaucoup plus que mes Monsieur Ched, les nest le bled. Hom li fhamouni carrément. واحد اخر راني نقول لك انا نغني 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 على فين تقول لي وين الزرنا وانا مش سبزرنازي انا سوي فقيره حب صعيبه الحب صعيبه الحب صعيبه يا ويح من خير حبيبه يا مهضروا فيا الحب صعيبه كلامهم جرحني الحب صعيبه نشوف الغالي انا نشوفه يفرحني الحب صعيبه الحب صعيبه.
Il y a donc dans le groupe, il y a des instruments, il n'y a que le bender, c'est tout. Vous parliez de sakhanul bender, c'est-à-dire comment? C'est une cérémonie aussi, la façon dont on chauffe le tambour, enfin
non,
le bender?
Non, pas du tout. Sakhanul bender, c'est mobile pour qu'il donne les coups normalement, parce que le bender, il gèle d'un bar normalement. باش يدير باش كي ندير باغ اكزومبل انا دقه وبومه ساجير طف اي طف عشطو في النص كي معايا نورمالمون باش يكون لي بيان كوم يفو باسكو البندير تاعنا نديروه من جلد المعيز نورمالمون باش يخبط بيان سي بور سلا كنقول لك انا على الكانون ولا على ريزيستونس نورمالمون.
Karim Naïdja, ce sont des paroles qui sont inspirées justement de vieilles poésies. De vieilles poésies que vous, aujourd'hui, vous êtes en train de les entretenir, en tout cas de les préserver.
Oui, nous sommes en train de les préserver normalement. Nous avons Kenoudou Rahnhani ou l'Arosa normalement. Anna, il dit que beaucoup plus l'Arosa Hadar Mahadi Marasoul normalement. On dit Ya Rab, on tarjaya. Mais tu fais bab rir babek. Manart nijir daya. Ya Mohamed Halina Hjabek. Bakhtun notre filah Ya Rabbi Atafha Aliya. هذيك تكمل العروس هكي تحني وبينا كيما نبدا الغناء نبدا نقول الصلاه على محمد الهادي الرسول يحيى العرايس محمد كيما نبدا نورمالمون.
Est-ce que les hommes participent enfin non enfin vous chantez est-ce qu'il y a des hommes?
Il y a des hommes à la partie parce que mazal عندنا حنا لي كوتيم تراديسيون تاع الرجال ما يدخلوش عن سا نورمالمون كي يدخل العريس يدخلوا معاه نورمالمون ولا كي عاد واحد راح يتطهر كيقعد راح يحني باباه وعمو نورمال تحو ويديروا لو تروك فيلمي دي ان سوفونير اكسيتيرا اكسيتيرا يا دي زوم كي بارتيسيپ ا سا ميم جاريب دي فوا ا فير دانسي دي زوم
بيان سور
جي باغ اكزومبل وي جي باغ اكزومبل يدخل لي راجل باكي يدخلوا رجاله نغني نورمالمون تاع يا ديني محلى عرسو اي تو الموند دانس اوم اي فام نورمالمون.
On a bien compris que les frérettes ont pris racine ici à Guelma, elles se sont étendues un petit peu à l'est. On les trouve à Constantine et Sokaras et Annaba. Et donc aujourd'hui, vous êtes presque le seul à résister, puisque enfin, Guelma a un peu boudé ce genre.
Oui, je résiste beaucoup plus. Et. Je le dis très bien, je résiste beaucoup plus. Et quand une nes maïna, l'itdini par exemple, là, c'est pas. Ou donc quand une nes t'aime dans la bagarre, tu dis que normalement, on jette binti sa drha fqira. Femti, autre notre ma match quand le tabou dek. Autre, يعني c'est à dire je rentre de partout. Donc là, de mon pikriya qui m'a bdit. وبالك فهمتيني كيما هضرت لك قبيله عندنا ان تروك عندنا ان استوس نتاع الفقيرات كو نو افون لو دووا دو رونتري avec les femmes, normalement.
J'ai bien compris que avant, c'était un chant qui appartenait aux chanteuses genre féminin, et qu'aujourd'hui, vous avez un peu révolutionné les choses, puisque vous êtes trois messieurs à chanter ce genre de chansons.
Oui, effectivement. Ce n'est pas également uniquement le frère Trojela. Le chef d'Arna, je le dis très bien, je le salue normalement, Nasser, l'Hajj, Khozhour, أو في عمر درك واحد مبلش 50-55 سنة هو الشيف دو فقيرات إيا وسي عبد الملك قسنطينة إيا وسي جمال نتاع سوق هراس وزاد ولاو كاينين الفقيرات بزاف رجالة نورمالمون بصح لو سول جروب اللي فيه غير يغنيو فيه غير دراري سي الجروب تاعي أنا هما يا ميلونج انتر فام اي هوم نورمالمون
بيانتو ديسيدي بيانتو
أبارامون جاتون بربي ان شاء الله بصح ما طحتش في لوكازيون اللي باش نسجل نورمالمون يا في اون فوا سيتي ان بويون بور لي مور كنت ما نعرفش داوني
كيلي لو شون كو فو شانتي كي تحنوا العروسه
يا توت افي مدام اون سيري دي شونسون بريسك واحد لي 7 ولا 8 شونسون نبداو بالصلاه على محمد ومن بعد نقولوا مولاي والسقار باك نقولوا قل هو الله هاتوا الحنة عد ملك الاسمر نحبسوا يحنيو للعروسه اون غوبرون يا رب ونترجايه ندخلوا بالله يا ربي عطفها عليا نكملوا دوحي ميما دوحي دوحي من دوحشي ونكملوا اي جات وجات هادي تلبس تزيد تروح للعروسه ويزيدوا يرجعوها من بعد
كريم Naïdja, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de courage parce que c'est pas facile d'être chanteur ici en Algérie.
Merci beaucoup pour vous aussi. J'aimerais bien que nous ayons des succès, que nous ayons des moustawa. Je ne suis pas Omar Belkhattab, je suis Marcel Belkhattab. Surtout aujourd'hui, c'est un courage. Les Omri sont soutenus par l'émission ou par vous. Je suis vraiment content.
Quatre numéros ne suffisent jamais pour raconter la wilaya de Guelma. Certains ont été omis volontairement, faute de temps. Et pour celles racontées, j'espère qu'elles vous ont plu. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous serons à l'Oued. Et si vous êtes là, alors ce sera bien.
في غسيق الدجا والويشات رقود بتنا وبات الراح بتنا وبات الراح ويجلى بينانا طارة يملى وطارة يعود وشريات ترننت بعودها حتى ترنى العود وضمت عودها لناديا واسبلت علي سواليف وعقود ودحدنت علي كأم المرضعان ودحننت علي كأم المرضعان في وسط حجرها مولود أصل همومك أفيد العشية ما تدري باش ياتيك الصبر هوا في الصهر قوم دير الحماية وفني فانونك مع الملاح قم اغتنم ساعة ساعة الهنية والدنيا ما هي إلا مزاح يا ساقي قوم فايض الزوزايز يا ساقي قوم فايض الزوزايز وسقينا عالغفلة الرقيب وعلى حضيرة بين السهارج والشمس وما مليتنا حلم غيب يا نجوم ريد والشمس وما ليت نحو المغيب الشمس مالت نحو الصفورة وداهبت أوراق الغروب